Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, qui est faite à partir de l'ouvrage « Comprendre la culture générale » paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années maintenant, mais qui est toujours disponible en librairie. Alors où en sommes-nous ? Nous en sommes au chapitre 8, « Culture et finitude » de cet ouvrage. Donc, nous avons vu la dernière fois que Icare, par exemple, trop exalté, avait été précipité dans la mer, ses ailes ayant fondu, la cire de ses ailes ayant fondu, et nous avions parlé de la submersion par l'inconscient d'un être qui, s'exaltait trop. N'oubliez pas que nous parlons actuellement du couple exaltation-banalisation. Alors, parlons de ces folies, par exemple, de ces folies réactionnelles à trop d'exaltation. Le monde devient un désert. Nietzsche, déjà, au XIXe siècle, l'avait signalé. Le désert croît, il augmente. Voilà. Et contre ce monde devenu un désert, Nietzsche a voulu réhabiliter le chaos matriciel, fécond, primordial. Dans Zarathoustra, dans Ainsi parler Zarathoustra, il dit « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir encore enfanter une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. » Il s'adresse à la foule. Il veut montrer à la foule qu'elle est banalisée et il défend, lui, le surhomme, c'est-à-dire l'exigence, justement, d'une transcendance au cœur de l'homme. Mais la foule, hélas, veut être comme l'homme banalisé, comme le dernier homme, et ne veut pas du surhomme que lui propose Zarathoustra. Alors, le surhomme que Nietzsche appelait de ses voeux était habité par ce chaos, en réaction contre l'homme unidimensionnel, désertique, l'homme aplati. Alors malheureusement, Nietzsche, à quelque temps de là, s'est effondré. Il a été submergé par ces forces obscures qu'il sentait en lui et que la civilisation de son temps ne voulait pas voir. Par exemple, se jeter avec exaltation à la tête d'un cheval, martyrisé par son cocher, ou bien se prendre pour Dionysos, intéresse le médecin aliéniste, mais n'intéresse plus le penseur. Du jour où Nietzsche s'effondre dans la folie, il ne nous parle plus. Les dieux, méprisés ou ignorés, s'emparent de la raison de l'homme. Donc cela peut arriver à tout le monde. Par exemple, il y a au musée Fabre de Montpellier un tableau représentant Aristote amoureux. Campaspe, qui est la maîtresse d'Alexandre, séduit Aristote, qui est le précepteur d'Alexandre. Et en fait, elle le fait marcher à quatre pattes, etc. Elle fait de lui ce qu'elle veut. Donc, la folie est très souvent socio-réactionnelle. Quand le monde est trop aplati, trop unidimensionnel, eh bien, celui qui réagit peut devenir fou. Et c'est le cas des artistes qui ont une sensibilité supérieure à celle des hommes ordinaires. Par exemple, Nerval a côtoyé la folie. Voyez Aurélia de Nerval, ou bien encore Van Gogh, ou bien Antonin Artaud. Les deux premiers au XIXe siècle et Artaud au XXe. Alors, ces folies sont inexplicables sans voir à quoi elles font réaction, à quoi elles font réponse. Il y a le positivisme au XIXe siècle, la mort de Dieu, que Nietzsche déplore. N'oubliez pas que quand Nietzsche dit « Dieu est mort », ce cri n'est pas un cri de triomphe. Enfin, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais c'est un cri d'angoisse. Et si donc la société est banalisée, si elle ne croit plus à rien, si elle est nihiliste, Nietzsche avait projeté de faire un livre sur le nihilisme européen, les artistes alors seront fous, ou plutôt on les dira fous. Alors, notez bien que les rapports d'un artiste et d'une œuvre, d'un côté, et de la société environnante, de l'autre, sont loin d'être des rapports d'émanation directe ou d'homologie. Les artistes ne copient pas la société. Très souvent, ils critiquent la société. Par exemple, une société économiquement et matériellement prospère peut donner naissance à des œuvres où l'angoisse, l'incommunicabilité, le malaise de de l'âme vont dominer. Je pense par exemple à la Dolce Vita de Fellini, hein, qui est l'envers de la société d'abondance des années 1960, des fameuses 30 glorieuses. C'est pas pour rien que la société étant prospère économiquement, l'incommunicabilité par exemple, voyez les films d'Antonioni, hein, ou bien le nihilisme dénoncé, voyez les films de Fellini, eh bien apparaissent, voyez. Alors par exemple l'existentialisme vient après la dernière guerre, hein, eh bien il est très angoissé, mais la société de l'après-guerre, elle a été très heureuse de consommer, voyez. Donc les artistes, je dirais, deviennent fous quand la société est sage ou quand elle est plutôt trop sage. Par exemple, Cocteau a habilement renversé le proverbe antique. Jupiter, disait-il, rend sage ce qu'il veut perdre. Le proverbe, c'était quos ult perdere prius dementat, c'est-à-dire ce qu'elle veut perdre, la divinité les rend fous. Eh bien, Cocteau a renversé cela. Ce qu'elle veut perdre, la divinité les rend sages. La sagesse apparaît justement comme un châtiment. Hein. La sagesse, disait Bernanos, c'est le vice des vieillards. Alors, je ne partage pas cette vision complètement, bien entendu. Vous le verrez à la fin de l'émission. Alors, au fond, où est la vraie folie, hein? Est-ce que la vraie folie, c'est dans la submersion par les archétypes numineux, hein, numineux, noumène, puissance sacrée, hein, comme chez Nietzsche, hein, ou bien dans la froideur et le détachement de la société contemporaine, vous voyez? On peut poser cette question, hein, qui est vraiment fou? Qui est le fou? Le primitif qui pleure et qui crie à la moindre occasion, en extériorisant tous ses sentiments, ou bien l'homme impassible, valorisé par les modèles d'aujourd'hui qui s'appliquent à cacher tout ce qu'il pense et tout ce qu'il ressent, hein. Donc, prenez le présentateur des nouvelles du journal télévisé. Il annonce les pires atrocités sans une larme, sans une manifestation extérieure d'émotion. Eh bien, on pourrait dire, si on manie le paradoxe, n'est-ce pas lui vraiment qui est fou, hein? Et regardez tous ces gens qui marchent dans les rues de nos villes, le visage figé dans une immobilité et une inexpressivité cadavérique. Est-ce qu'ils ne sont pas comme ces schizophrènes éteints qui déambulent dans les couloirs de l'hôpital psychiatrique? Voyez, les foules des pays que l'on dit primitifs ou des peuples que l'on dit en voie de développement sont au contraire vivantes, animées, colorées. Où est la folie? Dans la volubilité et la convivialité d'un marché du tiers-monde, ou bien dans le morne enfermement sur soi et en soi du client du supermarché, il pousse son caddie sans rien dire aux autres, vous voyez. Donc on peut voir justement qu'il y a une relativité de la folie. Alors il y a un livre très intéressant de Roland Jacquard qui s'appelle « L'exil intérieur » et qui reprend les travaux d'ethnopsychanalyse de Georges Devereux. Ce livre considère comme schizoïde la société occidentale. Elle est séparée en deux moitiés. Et c'est vrai que la société occidentale a perdu ce qu'Ivan Illich appelait naguère la convivialité. Dans une société traditionnelle, le fait d'acheter une douzaine de œufs, ou même six œufs, ou même, je sais pas, au moins, hein, c'est l'occasion d'une palabre et d'une négociation qui peut durer une heure pour le seul plaisir de parler et d'avoir le contact avec quelqu'un. C'est ce que Jacobson, le linguiste, appelle la fonction fatigue du langage. Fatigue, P-H-A-T-I-Q-U-E, fonction fatigue. On parle avec quelqu'un uniquement pour entrer en contact avec lui. Quand on dit à quelqu'un « il fait beau aujourd'hui », eh ben on ne veut pas parler de la météo, c'est qu'on cherche un contact humain, hein, une chaleur humaine dans ce contact. Mais si aujourd'hui, dans mon supermarché, je vais parler à la caissière parler de cette façon-là, pour dire des riens, que c'est rien qui sont le tout, peut-être le tout de l'humain, eh bien, on va d'abord me regarder très mal, on va me traiter d'exalté ou de fou, bien entendu. Hein. La valorisation du modèle anthropologique actuel, c'est la personnalité que je dirais Gore-Tex ou Teflon. Sur cette personnalité, tout glisse et rien ne marque. Hein. Par exemple, les Indiens ont été scandalisés que les Blancs n'aient point pleuré à la mort de leur chef, Cochise, vous voyez. Hein. Donc, pour un Indien, pour un homme primitif, c'est-à-dire un homme normal, il est normal, quand dans un deuil, de pleurer. Hein. Mais le modèle social qui règne chez nous, c'est le masque impassible du joueur de poker. Hein. Or, on pourrait dire qu'il y a une monstruosité du self-control, une obscénité du sourire de commande, face à certaines situations, hein, dont je pense là encore à certains présentateurs de la télévision. Alors, l'homme occidental, je pense qu'il est malade. Pourquoi ? Parce qu'il est morcelé. Il ne se comporte pas normalement, parce qu'il se dissimule derrière le masque du travailleur, du subordonné, etc. Derrière ce que Jung appelait la persona. Persona, c'est un mot latin qui signifie le masque de l'acteur de théâtre. Eh bien, dans notre société, le masque est tout. Hein. La persona, justement, ne se fissure jamais ou très rarement. Hein. Donc, l'homme moderne est schizoïde. Je dirais parce qu'il coupe justement sa personnalité de ses affects profonds. Hein. Je dirais qu'il est un amputé affectif. Regardez jusqu'à son costume. Alors je parle justement de l'homme inséré dans un métier. Hein. Le costume sombre, terne et conformiste de l'homme inséré, costume cravate par exemple, montre sa tristesse. Hein. Je sais bien qu'aujourd'hui la cravate est abandonnée, mais comment dire, lorsque j'ai écrit mon livre, on n'avait pas ce que l'on voit aujourd'hui, des costumes plus décontractés. Mais à tout cela, il faut opposer les tenues vives et gaies qui sont chatoyantes et pleines de fantaisie des civilisations traditionnelles. Hein. Alors bien sûr, ces tenues sont handicapantes pour la rentabilité économique. Le boubou, la djellaba sont moins pratiques et performants à l'usine que le bleu de travail. Hein. Mais enfin, quand je réfléchis à cette folie, je me dis où est-ce qu'elle est vraiment, hein? Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas toujours où l'on croit. Hein? Par exemple, s'enfermer tout seul dans sa chambre face à un mur nu, hein, que l'on fixera pendant des heures, sera dit le propre d'un fou. On dira, il est fou celui-là. Mais regardez comment ça se passe dans beaucoup de foyers. Passer des heures à vociférer et à se disputer avec sa famille au milieu des hurlements de la télévision, vous voyez, n'est-ce pas là qu'il y a la folie, hein? Je pense au film de Ken Loach, Family Life, hein, où on voit l'héroïne, Janice, qui est dans une espèce de catatonie, d'immobilité, donc qu'on va décréter folle, hein, bon, mais on voit justement, en comparaison avec cette attitude, la folie de cette famille bien pensante qui sacrifie au fameux métro boulot dodo, vous voyez, hein. Donc, avant de parler de folie, il faut considérer quels sont les codes ou les repères de valeur admis par une société donnée. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, que dirait un représentant d'une association de parents d'élèves si on lui disait ce que dit Platon, qu'un bon professeur doit être amoureux de ses élèves et bien entendu des garçons, hein. Alors aussitôt, on aurait une levée de bouclier. Alors, je pense qu'il faut prendre tout ce que je dis avec un certain humour. J'espère que vous, auditeurs, vous les interprétez de cette façon, hein, bien entendu, mais j'indique des directions. Hein. Souvenez-vous du proverbe oriental, hein, quand on montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Donc, il faut voir dans quelle direction se situe mon discours. Voilà, alors reprenons la réflexion après cette petite virgule musicale. Je dirais que les réactions au vide d'un monde unidimensionnel et banalisé sont diverses. Il y a différentes exaltations qui ne sont pas toutes sans danger. Donc je vais parler maintenant d'un phénomène dont la formulation est assez bizarre, de l'homme-loup. Hein, l'homme-loup. Lorsque le monde devient un désert, alors va retentir l'appel de la steppe, de la forêt, du loup, de l'homme sauvage, ce que les Allemands appellent Wildermann, l'homme sauvage. Hein. Bon, la vie sociale est parfaitement policée, et bien face à cela, le rebelle sera celui qui écoutera l'appel de la forêt, comme le dirait Jack London. Call of the Wild, l'appel de la sauvagerie. Hein. Et cet appel, c'est celui de l'homme sauvage. Notez que sauvage vient du latin silua, qui veut dire forêt. Vous l'avez dans Sylvestre, etc. Hein. Bon. Alors là, cette dualité, elle est anthropologique et aussi topologique. Il y a deux espaces, l'espace urbain et l'espace des forêts. Le premier s'est conquis sur le second, et le second menace, et aujourd'hui encore, peut submerger le premier. Parfois, il apparaît comme le recours, ainsi que le dit Ernst Jünger dans son traité du rebelle, ou le recours aux forêts, vous voyez. Donc, le livre de Jünger se trouve dans la collection de poche, collection Point. Il est paru en 1986, vous voyez. Quant à l'exil intérieur, schizoïdie et civilisation, justement de Roland Jacquard, dont j'ai parlé précédemment, il se trouve toujours dans la collection du Seuil, Point. Il est paru en 1978. Alors, la ville, ça renvoie à l'urbanité, en latin urbs, c'est-à-dire la politesse. Hein, bon, mais dans la ville, il y a toujours la jungle. La jungle, elle subsiste. Hein. Le soir, par exemple, dans les rues désertes des villes, quand chacun s'abrite derrière son digicode, eh bien, la rue est livrée aux exclus. Hein, et donc, vous avez cette dualité, les reclus face aux exclus. Alors, la jungle apparaît. Et dans la jungle des villes, c'est une pièce de Bertolt Brecht, vous voyez. Alors, dans le désert des grandes villes, l'homme peut se sentir un animal. Hein, et ainsi, le loup, qui est réprimé un homme dans l'homme civilisé, veut crier au fond de nous-mêmes. Et l'homme moderne, pourrait-on dire, meurt de ne pas laisser crier ce loup. Et peut-être le cri seul serait-il la thérapie, hein, comme dans le livre de Janov, Arthur Janov, le cri primal. Hein. Aujourd'hui, on n'en peut plus de ne pas crier. Il faudrait encore crier, suivre Nietzsche, justement, dans son discours déstabilisant. Hein. Alors, vous me direz, il y a la hola des matchs de foot. Bon, d'accord, mais ça, c'est une version, très aplatie du cri. Hein. D'autant que ce n'est qu'un cri provisoire. Hein. Alors, la fiction, ou la science-fiction, ou le récit fantastique, nous a habitués au personnage du lycanthrope. Alors, lycanthrope, ça vient de deux mots grecs, le loup hein, et l'homme, anthropos. Hein. Alors, c'est aussi le loup-garou, hein, c'est un personnage mi-homme, mi-loup. Et il est évident que l'homme-loup, ou l'homme qui se métamorphose en loup, c'est une métaphore de la possession de l'homme civilisé par l'animalité, qui est réprimée précisément par le processus de civilisation. Nous avions vu lors de la précédente série d'émissions, l'année dernière, que le processus de civilisation est une éducation par éducastration, comme le dirait Wilhelm Reich. Je pense justement au livre de Norbert Elias, La civilisation des mœurs. Hein. Il s'agit de réprimer justement l'instinct. Et la culture tout entière peut être vue comme une violence symbolique qui est faite à l'animal en nous. Alors, que le loup à nouveau s'empare de nous, hein, et nous voilà à nouveau submergés, vous voyez. Dans tel film américain, les loups continuent à vivre dans les quartiers des grandes villes, au milieu même de l'urbanisation et de ses chantiers. Les loups et les Indiens sont proches les uns des autres, contre l'homme blanc qui s'est coupé de la nature. Je suppose que vous connaissez tous le film de Kevin Costner qui s'appelle « Danse avec les loups ». Hein. Mais Il y a aussi le film Wolf, le loup de Mike Nichols avec Jack Nicholson, qui est sorti en 1994 et qui montre comment la lycanthropie apparaît, c'est-à-dire la métamorphose d'un homme en loup. Hein. Alors tout le monde connaît l'incroyable Hulk, bien entendu, hein. Mais déjà dans les métamorphoses d'Ovide, il y a des phénomènes de lycanthropie. Hein. Une femme, par exemple, essaie de parler et puis elle aboie au lieu, justement, où elle hurle, hein, au lieu de parler avec des syllabes articulées. En latin, conata loqui, loqui latrawit. Ayant essayé de parler, elle aboya. Ça m'impressionne toujours, cette phrase. Hein. Voilà, elle aboya. Alors, le loup, finalement, il faudrait l'aimer, le loup. Hein. Il faudrait l'apprivoiser, hein, comme il se voit, par exemple, dans les hypocoristiques. Les hypocoristiques, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hypocoristiques, ce sont les diminutifs d'affection. Hein. Les diminutifs d'affection qui sont fréquentes justement dans les rapports amoureux. Mon petit loup, hein, mon petit loup. Il y a un texte de Alphonse Allais, mon petit loup et mon gros canard. Hein, voilà, Alphonse Allais raconte qu'il dort dans une chambre d'hôtel dont les cloisons sont peu épaisses et il entend tout ce qui se passe à côté et il entend des expressions comme mon petit loup et mon gros canard. Alors le narrateur dit ben voilà, dans mon hôtel il y a un petit loup et un gros canard. Qui en fait irruption. Alors, il faudrait... voilà, ces hypocoristiques définissent ce que j'appellerais une ménagerie de l'amour. Hein. Il suffit de relire des lettres d'amour et on voit que parfois il s'agit de visiter un zoo. Hein, un zoo. Voilà. Donc, c'est par les métaphores aussi que le poète justement animalise l'être humain. Vous voyez la chevelure de Baudelaire. Hein. Eh bien, longtemps toujours ma main dans ta crinière lourde, sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à l'entrée le vin du souvenir? Vous voyez, donc la chevelure devient une crinière, hein, c'est-à-dire quelque chose d'animal. Hein. Donc la métaphore poétique permet justement l'animalisation. Elle est purement symbolique, bien entendu, hein. Mais il y a une fonction cathartique, je dirais, purificatrice de l'art, de la poésie et des autres arts, et qui est nécessaire. Quant à ce loup, il faut l'aimer pour éviter qu'il ne nous dévore. C'est un peu le cas de l'ours, hein, qui est très dangereux, hein, surtout quand on l'oublie, quand on oublie son existence, quand il est blessé par notre ignorance. Hein. Tous les chasseurs vous diront qu'un animal, quand il est blessé, est beaucoup plus dangereux que quand il n'est pas blessé. Donc quand on ignore en nous la bête, l'animal, l'ours ou autre, hein, eh bien, la morsure de l'animal peut être beaucoup plus dangereuse. Eh bien, l'ours réellement est dangereux, mais l'ours en peluche, il est protecteur, hein, et donc il devient le nounours. Hein. Donc, il faut aimer la bête en nous, hein, pour que cette bête devienne aimable. Bon, vous connaissez tous le film La Belle et la Bête, à partir d'un conte pour enfants, hein, mais il n'est pas que pour enfants, La Belle et la Bête. Hein. Donc aimer, c'est véritablement fermer les yeux sur l'aspect repoussant de celui qu'on a en face de soi, hein, et ensuite, en l'aimant, il va se métamorphoser. L'objet de l'amour va se métamorphoser. Hein. Donc, voyez aussi le fameux fier baiser au Moyen-Âge. Hein. Fier vient de férous, qui veut dire sauvage. Hein. Le fier baiser médiéval consiste à embrasser l'être repoussant. Vous voyez la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, de Flaubert, à embrasser un lépreux, par exemple. Hein. Donc, ce qui nous fait peur n'attend que notre sympathie, notre amour pour se métamorphoser, pour changer. Mais quand nous ignorons ce qui nous fait peur, comme dans le cas de l'homme occidental, alors l'objet de notre ignorance va devenir quelque chose de dangereux. L'animal, justement, en soi, il faut s'interroger sur à quoi il correspond. Prenez Polyphème, par exemple, le cyclope. Hein, il montre d'où Ulysse est parti et vers quoi il s'est élevé, puisque Polyphème est une partie d'Ulysse, d'un certain point de vue, et où il peut encore revenir. L'homme peut encore s'animaliser s'il n'a pas géré, comme il le faut, ses relations avec l'animal. Alors, comment faire pour laisser crier en nous le loup, sans être dévoré par le loup. Hein. Eh bien, cela est le thème du roman symbolique de Hermann Hesse, qui s'appelle « Le loup des steppes ». Je vous engage à lire ce roman. C'est un roman très jungien, d'ailleurs, Hermann Hesse connaissait Jung. Hein. Il permet de bien illustrer ce que Jung appelle la dialectique du moi et de l'inconscient, c'est-à-dire le dialogue du moi conscient et de ses forces obscures, ce que Jung appelle l'ombre. Donc, dialogue entre le masque, la persona, et l'ombre profonde. Alors, que nous dit Hermann Hesse ? Il nous dit que dans un décor urbain, le loup peut très bien de revenir. Alors, Hermann Hesse, c'est le contraire de l'esprit hippie ou écologique, mal compris. Hein. C'est un esprit irénique, du grec irénée, la paix. Hein. Bon, ce n'est pas l'irénisme hippie, hein, le loup des steppes. Il faut y lire non pas sous les pavés la plage, mais sous les pavés la steppe. Hein. Et ce roman, je le répète, est tout à fait jungien, puisque les deux moitiés de l'être, le conscient civilisée et l'inconscient sauvage ne sont pas unies harmonieusement, mais elles sont séparées, scindées. Et cette scission est génératrice d'une névrose, et même, elle est la névrose, elle définit la névrose, elle est ce par quoi la névrose se définit. Quant au surgissement non contrôlé ou non maîtrisé du cri, et quant à la possession de l'être par le loup qui l'habite, eh bien, ils sont, selon notre terminologie, les marques d'une psychose. Mais enfin, tous les rituels primitifs, tous les rituels tribaux symbolisent et miment cette possession. À quoi servent par exemple les masques rituels, hein ? Il s'agit de capter une énergie que l'on puisse s'incorporer. Pensons au vaudou, etc., ou au phénomène du chamanisme. Hein ? Eh bien, la bête habite l'homme, hein, et finalement lui permet de se réconcilier avec lui-même. Mais l'homme moderne et urbain n'a plus ces possibilités. Hein. Où est-ce que l'on peut crier comme un loup dans le monde actuel ? La perte de conscience même quand elle est momentanée et ritualisée, elle n'est plus possible. Hein. Les cafés de Naguère, qui étaient des lieux conviviaux, qui étaient des temples de Bacchus, hein. Notez que Bacchus est un dieu bon, hein, qui délivre l'esprit de l'ankylose de la logique, comme le disait Bachelard. Hein. Eh bien, les cafés, ils ferment aujourd'hui, l'un après l'autre, et dans chaque quartier de nos villes, eh bien, à la place des cafés, on a des agences bancaires. Hein. C'est-à-dire que le dieu moderne, c'est Plutos, hein, le dieu de la richesse, l'argent. Plutus a détrôné Bacchus. Hein. Le café était l'occasion de ce qu'Antoine Blondin appelait plaisamment un verre de contact. Hein. C'est-à-dire que on pouvait parler, hein, s'épancher. Et aujourd'hui, cela n'est plus possible. Voyez aussi sur l'ivresse salvatrice, le film de Verneuil, Un singe en hiver, hein, toujours à partir du roman, je crois, de Blondin. Hein, donc, Bacchus, ouais, Brassens le dit bien, hein, Bacchus est alcoolique et le grand pan est mort. C'est-à-dire que l'ivresse devient l'alcoolisme. Et donc, elle est effectivement l'objet d'anathème. Donc, ces symbolisations poétiques étaient nécessaires, mais aujourd'hui, on n'en a plus l'occasion. Alors voilà, écoutez, nous venons de parler de la folie. Eh bien, je vous signale que, par rapport à cela, j'ai écrit un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Sur les chemins de la sagesse », qui se trouve chez l'éditeur www.bod.fr. Il se trouve aussi en librairie sur commande, il est diffusé par la Sodis, il se trouve facilement, ainsi que sur tous les sites internet de vente en ligne, Amazon, etc., Fnac, etc., sur les chemins de la sagesse. Et dans ce livre, je dis que qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Passez une bonne semaine et je vous dis donc au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.